est capable de procéder à des analyses qui tiennent debout. J'ai dit à ma femme, fais les valises, on rentre à Paris.
C'est dangereux de conduire bourré, mais on va quand même pas rentrer à pied.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments. Mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa. Un prince, une bergère peuvent bien s'accorder quelquefois, mais une fille et son père, c'est ma foi, un échec assuré, une progéniture altérée. Mon enfant, il vous faut oublier à présent fantasme démoralisant, et vous rencontrerez un charmant va-nu-pied ou un prince mendiant. Mais de grâce, oubliez cet hymen insensé. Mon enfant, la vie vous offrira ses présents, mais il vous faudra auparavant vous conformer au plan que j'ai conçu pour vous savamment. Mon enfant, ne craignez pas les égarements. Je vais vous éclairer brillamment. Je vais vous protéger. J'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé. Mais de grâce, écoutez, j'ai tout manigancé.
Chaque fois que la mer se retire, il faut pleurer les vagues, comme si elles ne devaient jamais revenir, lécher nos longues plages blanches. Si quand les bateaux se penchent, se couchent dans les algues, les marins croient qu'ils vont périr, alors je comprends que mes départs te déchirent. Si chaque fois que la nuit se referme, il faut pleurer le soir, comme si c'était pour toujours le terme des matins clairs et de l'espoir. Si chaque fois que je tourne les yeux, il faut que tu m'empêches de plonger dans mes pays merveilleux, alors je comprends que tes paupières se dessèchent.
Et le jour qui s'est...
te fait attendre. Je pars, pars au fond de ma grotte, cachée dans les bois. Je pars, pars au fond de ma grotte, cachée où tu n'es pas.
D'une fratrie de 4 enfants, et il y a moi, 24 ans, mon frère Peter, 23 ans, mon frère Tim, âgé de 20 ans, et mon petit frère Karl, âgé de 12 ans. À l'âge de 11 ans, j'ai trouvé, je ne sais comment, la force de parler à ma maman. Un soir où ça a été le soir de trop, j'ai compris que je devais en parler. J'ai espéré que ma maman me vienne en aide et que mon père a quitté ma chambre, après avoir remonté ma culotte et m'avoir dit « Je suis désolée ma chérie, je t'aime. » J'ai rejoint ma maman. Je lui ai dit que je devais lui parler. J'arrivais pas à trouver les mots, c'était trop dur. Du coup, je disais « C'est papa. » « Non, non, c'est papa. » Et elle a très vite compris. Elle m'a dit « T'as fait du mal. » Et j'ai dit « Oui. » Elle m'a dit « T'as touché. » Et j'ai dit « Oui. » Et j'ai dit « C'est pas la première fois. » Puis elle a fini par me dire « Je t'en supplie, dis rien. Je suis enceinte. Si tu dis quelque chose, je me remettrai pas. Je vais faire une fausse couche. Que si je parlais, eh bien voilà, il y aurait des conséquences dramatiques pour mes frères qui étaient à ce moment-là la prunelle de mes yeux et j'aurais fait n'importe quoi pour eux. Il fallait que je fasse comme si de rien n'était. » Sauf que pour moi, c'était pas possible. Je regardais mon père et j'arrivais plus à l'appeler papa. Parce qu'un papa, il fait pas ça. J'ai fini par comprendre que me taire, c'était juste protéger mon père. Mon père a fini par savoir que... Et du moins à comprendre que j'allais en parler. Et là, le marathon judiciaire a commencé. Mon père a été condamné à 3 ans. Mais seulement une année de ferme. C'est-à-dire qu'il a fait 1 an de prison et... Il est sorti le soir du procès. Le soir du procès, moi, on m'a ramené au foyer. J'ai retrouvé ma chambre et... les barreaux aux fenêtres, et j'ai eu l'impression qu'au final, c'était moi qui étais punie, tout simplement. J'ai fait une tentative de suicide. Sur le point de perdre connaissance, j'ai eu le temps de passer un appel qui m'a sauvé la vie. Je me suis réveillée quelques jours plus tard en réanimation, et j'ai pleuré de joie, parce que j'étais vraiment contente d'être là. Il n'y a pas un jour depuis où j'ai pas regretté ce que j'ai fait à l'époque, et pourtant, j'ai eu beaucoup d'épreuves depuis, mais... Je suis persuadée que rien ne vaut la vie, et ça aurait été la pire des choses à faire. En ce qui concerne ma maman, ça a été... plus difficile. Quand mon père a été incarcéré, elle a continué quelque temps à prendre sa défense. Mais quelque temps avant le procès, elle a demandé le divorce. J'ai fini par retourner chez ma maman. C'est très vite redevenu compliqué. Elle est passée de la maman complètement désolée, prostrée et pleine de culpabilité à finalement une maman qui faisait comme si de rien n'était. Il fallait encore tout effacer. À la fin de mon année de terminale, j'étais prise en classe prépa, canipocane. J'ai eu un bac L. J'avais rencontré un homme. Je me suis mariée. J'ai même divorcé. De notre union, il y a eu un enfant. Une petite fille aujourd'hui âgée de 6 ans qui est toute ma vie et plus encore. En devenant maman, finalement, j'ai vu ma propre mère s'adoucir, se faire beaucoup plus présente, beaucoup plus investie. et je prenais souvent Karl. Je voulais aussi lui changer les idées parce que ces années-là ont été des années où Karl a montré beaucoup de souffrance. Karl, il est allé un week-end sur deux, la moitié des vacances chez son père. Et très vite, il a commencé à exprimer un certain mal-être. Un jour, je me rappelle, à table, Karl se met à pleurer en plein repas et dit qu'il veut se suicider, qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il a voulu prendre un couteau dans la cuisine et se le planter. Et suite à ça, je parle à notre maman et je lui dis « Est-ce que tu te rends compte qu'il y a un problème? Est-ce que tu te rends compte qu'il va pas bien ?» Elle me dit oui. Mais elle me dit qu'elle a peur, qu'elle a pas la force, qu'elle se sent pas de mener encore un combat avec notre père. Elle était dépassée, je me rappelle d'une fois où elle me l'a amenée à la maison. Et elle m'a dit « S'il te plaît, fais attention à lui. J'y arrive plus, je suis trop nulle, je suis une mauvaise maman. » C'est dans ce contexte-là que j'ai amené mon petit frère Karl avec ma fille en vacances. Alors que le bateau allait faire 7 jours de traverse en mer, le téléphone du bateau a sonné, c'était le capitaine qui m'annonçait en anglais qu'il fallait que je rappelle mon père de toute urgence. Et là, il m'a dit « Ta mère est morte, elle s'est suicidée. » J'ai hurlé « Karl, mon bébé. » Je me suis dit qu'il y avait un petit garçon de 9 ans à qui j'allais devoir annoncer ça et je me suis dit « Qu'est-ce qu'elle a fait ?» Là, j'ai eu à annoncer la plus dure des choses à mon petit frère. « Maman est morte. » Et là, il a hurlé. Je lui avais demandé de s'asseoir par terre parce que je voulais pas qu'il se blesse. Il m'a dit « Je t'en supplie, protège-moi de papa. Je veux vivre avec toi. » Et j'ai demandé la garde de Karl. J'avais 22 ans. J'envisageais pas une seule seconde d'abandonner Karl. Et si j'étais peut-être jeune, j'avais la place pour lui et suffisamment d'amour pour prendre soin de lui chaque jour.
Comme un souffle qui s'enfuit, un sourire que t'oublies, comme une larme qui sèche, une langue qui te blesse, comme un rêve inachevé, une erreur assumée, comme un rire qu'éblouit le chagrin de ta vie. vie. Comme une étoile qui brille, une lune qui scintille, comme une main tendue, un coup de poing reçu, comme une bouteille à la mer, un message de l'enfer, comme un venin injecté pour un virus tant aimé. Je suis la mère de l'envie, l'ennui de ta vie. Je suis l'un et l'autre, et je serai cet apôtre. Je suis la mère. Obsolète dans les larmes d'un poète, comme un souvenir oublié d'une révolution manquée, comme un ciel sans nuages, être l'élément du rouage, comme évident je te perdrai en chemin, comme une église sans saint je serai providence, comme un jour sans fin le souvenir au lointain, comme une lumière qu'on éteint pour retrouver le matin. Je suis la mère de l'homme. Je suis l'un et l'autre, et je serai cet apôtre. Je suis la mère de l'envie, l'ennui de ta vie. Je suis l'un et l'autre, et je serai cet apôtre.
Viens nous faire un tour à l'ambé.
Si t'as rien trouvé pour squatter, viens nous faire un tour à l'ambé.
faire un tour à l'envers.
Je te mets bien de te plaquer, de me faire un tour à l'envers.
Si du bouquin tu veux te jeter, viens donc faire un tour à l'envers.
Qu'on est entré là sans avoir vu de la lumière. Il y a là le feu, le computer, Vivendi et la terre. On doit pouvoir s'épanouir à tout envoyer enfin en l'air. On peut toujours espérer entrer un jour dans la famille. Sûr que tu pourras devenir un crack boursier à toi tout seul. On pourrait même envisager que tout nous explose à la gueule. Autour des oliviers palpitent les origines. Infiniment se voir rouler dans la farine à l'envers. Un autre cycle. On peut caresser des idéaux sans s'éloigner d'en bas. On peut toujours rêver de s'en aller, mais sans bouger de là. Il paraît que la blanche colombe a 300 tonnes de plomb dans l'aile. Il paraît qu'il faut s'habituer à des printemps sans hirondelles. La belle au bois dormant a rompu les négociations. Latéralement, le prince entame des protestations. Toi doit-on se courber encore et toujours pour une ligne droite? Prière pour trouver les grands espaces entre les parois d'une boîte. Serait-ce un estuaire ou le bout du chemin au loin qu'on entrevoit? Spéciale dédicace à la flaque où on nage, où on se noie. Autour des amandiers fleurissent les mondes en sourdine. Nos pas s'arrament sous les fourches codines. À l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à
Tous les gens
Les deux années qui sont écoulées depuis, je les ai passées très souvent dans un tribunal pour enfants, avec notre père, toujours là pour contester la moindre chose, et en particulier le placement de Karl à la maison. Il utilisait la question de son autorité parentale pour s'opposer à plein de choses. Pour renouveler le passeport, il fallait qu'il signe. Pour l'inscrire à l'école, il fallait qu'il signe aussi. Tout était prétexte à. J'avais pas à cœur qu'il y ait cette guerre judiciaire entre notre père et moi. Mais en même temps, si je voulais être présente pour Karl, j'avais pas le choix. Karl, il disait, si vous me forcez à voir mon père, je me suicide. Si vous m'envoyez en foyer, je me suicide. Quand je pense à mon père, je pense à la mort. Il a dénoncé des choses graves de son papa sur lui, de la maltraitance, des faits d'inceste, une violence psychique, psychologique. Notre père l'avait forcé à se déguiser en fille et pas comme on se déguiserait entre amis. M'avait compris. Et en septembre 2020, il a amené au commissariat et il a déposé plainte. Jusqu'à aujourd'hui, le commissariat n'a pas entendu notre père sur ce que Karl reprochait. Et c'est pas quelque chose qui vivait bien du tout. Et c'est vrai que suite au suicide de notre maman, j'avais peur. Pourtant, très vite, il a commencé à aller mieux et tous les professionnels le disaient eux-mêmes. Je pouvais aller vérifier s'il dormait bien, s'il respirait bien 3-4 fois dans la nuit. Mardi 29 juin 2021, je suis rentrée à la maison et j'avais accepté qu'il allait jouer l'après-midi chez un de ses meilleurs copains. Il a passé une très bonne après-midi. La maman l'a ramené en fin de journée, il m'a dit qu'il était très content de me voir. Je l'ai laissé pour aller au sport 2 petites heures. Et je suis rentrée à la maison, j'ai ouvert la porte d'entrée et je l'ai trouvé pendu. J'ai eu l'impression que ça avait duré des minutes, en réalité ça ne durait pas plus d'une seconde. Je l'ai soulevé, je l'ai décroché et j'ai essayé de le réanimer en même temps que je hurlais. C'est pas possible. Reviens, je t'en supplie. Assez rapidement, deux messieurs me sont venus en aide, ils ont sauté le portail. Le plus jeune a pris le relais du massage et il m'a demandé d'aller chercher des ciseaux pour couper le foulard qu'il avait autour du cou. J'ai encore du mal à parler de ce que j'ai trouvé tant c'était violent. C'est la pire chose qui pouvait m'arriver. Depuis ce jour, je fais face à beaucoup de questions qu'on cherche à comprendre. Il s'agit d'un petit garçon de 12 ans. C'est insoutenable pour chacun. Insoutenable de se dire que on peut pas résumer son suicide. Karl est un enfant qui a souffert pendant 12 ans. C'était un enfant, il a fait ce qu'il pouvait. Je me culpabiliserai toujours, je me dirai toujours que j'ai pas fait assez. Mais je conserve tous mes souvenirs et je crois Karl quand il disait que j'étais la meilleure grande sœur au monde. Malheureusement, les jours qu'on suivit le décès de Karl ne se sont pas du tout bien passés. J'ai très vite compris que notre père, il allait pas s'arrêter là. En janvier de cette année, on a perdu notre frère Tim, qui était malade. Ça a été très dur. Parce qu'on a perdu un frère, moins de 2 ans après le décès de notre mère. Mais ça a été d'autant plus dur que notre père a refusé que Tim soit inhumé avec notre maman. Karl disait qu'il comprenait pas comment un père pouvait refuser qu'un fils repose auprès de sa mère. Les jours qu'on suivit le décès de Karl, j'ai espéré que notre père entendrait à quel point c'était important que Karl puisse reposer auprès de notre maman. Ça n'a pas été le cas. Je me suis retrouvée à saisir un juge des funérailles. J'ai demandé au tribunal d'être courageux. Je leur ai dit que voilà, depuis 2 ans, ces juges des enfants, ce tribunal pour enfants avait été courageux pour Karl. Et qu'une dernière fois, je leur demandais de faire preuve de courage. La justice m'a écouté. Elle a écouté Karl et elle m'a désigné comme la personne la plus à même de décider des modalités des obsèques. Si j'ai trouvé la force finalement dans chacune des épreuves qui ont composé ma vie, c'est que j'ai eu cette chance à chacune d'entre elles de recevoir une main tendue. Finalement, l'histoire de ma vie, c'est que ceux qui me devaient quelque chose de par le lien familial, eh bien, ne m'ont pas donné. Mais qu'à l'inverse, ceux qui ne devaient rien ont tout fait pour moi. Dans toute cette horreur, ces horreurs, eh bien, il y a des choses qui sont très belles. Tous les hommes ne sont pas mon père. Tous les gens qui souffrent ne finissent pas par se suicider. Le suicide, c'est pas contagieux. Beaucoup de jeunes femmes victimes d'agressions sexuelles pensent qu'elles ne la dépasseront jamais, elles ne surmonteront jamais. C'est faux. On peut avoir une enfance difficile et devenir un adulte construit. On peut avoir eu des parents maltraitants et devenir un bon papa, une bonne maman. Je fais partie de ces gens qui pensent qu'au bout du tunnel, il y a toujours une lumière. J'ai que 24 ans. Et si ce que je peux dire peut aider une seule personne, alors ça valait le coup de m'exprimer.
Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer. Près de moi, dans un bruit semantelle, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'était revenu. Dit l'oiseau, on dit en mer de moi, retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles et des étoiles. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage. M'étais endormi quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi, quand soudain, surgissant de nulle part, surgit un aigle.
Ondulé, ta
es une panthère dedans. Tu es seul maintenant. Il te faut chasser pour être rassasié. Dans ta gueule tes poignards taquinent tes mâchoires. Et dans tes yeux l'espoir allume un feu tout noir.
Sa panoplie de secrets, quand c'était mon moteur, maintenant que je suis à l'écart, je te dévoile dans cette lettre les souvenirs qu'ont stocké ma carcasse. Je suis né un mois en avance, dans un petit village à l'est. Un mois de décembre, ma mère était professeure. Ses yeux noirs, sa tendresse, son violon ont bercé mon enfance. Mon père voyageait beaucoup, il vendait les cyclomoteurs chinois à des concessionnaires. J'étais très rêveur, mes dessins, la forêt, le tennis, mon pote Pierre et sa sœur. À 20 ans, j'ai filé en ville de ma prépa de design. Il ne reste que mes connaissances en vigne. Je sortais toutes les nuits, un soir dans un club branché, tellement sous, putain, j'ai tout fait valser les 3 jours à l'hôpital. M'ont convaincu que le viteur n'était pas amateur de scandale. J'ai enchaîné les jobs, livré du pain, trier des plaintes, peindre le mur, tendre la joue au téléphone. Mais un jour, au bout du fil, une voix m'a figé. Son humour bien débile, une fêlure dans la voix. Je lui ai pas vendu une mutuelle, mais un rancard en bas de chez moi. Elle s'appelle Astrid, elle ressemble à cette actrice dans le film dont j'ai oublié le titre. Pour elle, j'ai déménagé. La coloc d'Avignon, c'était mieux que Paris, mais 9 mètres carrés. J'ai découvert l'amour, on s'est même attrapé dans le bus, près du palais du Roure. Le chauffeur nous a grillés. C'était gênant, mais lendemain, rebelote au musée du petit palais. On riait, on buvait, on fumait, je gueulais, elle pleurait, refumait, elle sniffait, je soufflais, 30 bougies, elle m'aimait, je l'aimais, on vivait de bière fraîche et d'amour. de choses simples, de détours, c'était bien. Ça aurait dû continuer, mais sur ma route, la vie a mis ce fourgon et chauffeur fatigué. Prends donc ce cœur et sa panoplie de secrets offerte à ton corps.
Ordinairement dense, je l'ai vécu mille fois dans les livres que t'as pas pris le temps d'ouvrir. J'en ai écorné des pages, cela avait-il du sens à recenser les délires que je pourrais jamais vivre? Bien sûr, sans cesse, les sensations fortes, la mer, l'amour à mort et la station mire. Quoique j'aurais besoin d'un peu plus de ressort pour franchir l'atmosphère avec un cœur de sperre. J'ai cru vivre aussi des vadrouilles solitaires, des bidouilles pour se sortir d'une panne dans le désert. Le retour au village, acclamé de tous, le visage en nage, mais le sourire aux trousses. Aussi ce tas de bijoux que la vie offre au commun des mortels. Gravir le récif, contempler la vue, boire quatre verres de pif et se sentir ému. Le galopin que je m'autorise le dimanche me rappelle bien que je ne suis pas né sage. Il y aura dans ta mort ma part de revanche. Je trinque avec un ange. Comment ne pas vouloir surtout la paix, retourner le bip espoir et aussitôt fait partir sur un coup de tête sans prévenir quiconque, sans que ma sœur s'inquiète, sans qu'elle appelle mon oncle et toute la smala. C'est pas ce qui peut se passer avec des types comme moi. Ma sœur, tu sais, est adorable, miraculeusement volontaire et dévouée à moi. C'est elle, quand je m'enterre, qui sort ma tête du sable. Elle est mon point de repère, mais elle est toujours là. Ça la libéra, elle, ça me libéra d'elle. Ça la libéra, elle, ça me libéra d'elle. Et le trou dans son temps où il n'y avait que moi sera si béant qu'elle n'en voudra pas. Ça lui coûtera tant, même si c'est en silence, de goûter elle aussi sa part de revanche.
Je viens ce soir vous dire très simplement au revoir. Merci à vous tous qui, de Valenciennes à Thionville, d'Alsace en Bretagne, des Antilles à la Réunion, de la Manche à la Lozère, de la Haute-Savoie au Var et à la Corse. Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous. Oui, bonne chance du fond du cœur et dans ces temps difficiles où le mal rôde et frappe. Je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur, pour son bien et pour sa grandeur.
Hexagone, l'émission 100% AOC France.
Au revoir.
À la semaine prochaine.
Now
It's up to me and you to prove it.